J'ai une excellente question pour vous. Le Seigneur réserve-t-il des récompenses spéciales pour ceux qui souffrent en son nom? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse pleine d'espoir, aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui, au cours de l'émission, je pense qu'on va pouvoir remarquer que les églises de l'Apocalypse ressemblaient drôlement aux églises qui forment l'Église de Jésus-Christ de nos jours. Alors j'ai bien hâte d'entendre ce qui nous sera enseigné à ce sujet. Alors allons-y avec nos questions. Est-ce que ceux qui entendent la parole de Dieu la comprennent tous? Quelles sont les églises de l'Apocalypse auxquelles le Seigneur n'a fait aucun reproche? Le Seigneur a-t-il encouragé les églises qui souffraient pour son nom dans l'Apocalypse? Les a-t-il félicités? Le Seigneur réserve-t-il des récompenses spéciales pour ceux qui souffrent en son nom? Que signifie l'expression « la seconde mort » dont il est question dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que ce serait un avantage pour nous si le christianisme devenait une religion d'État? Demeurez avec nous! Je crois que le Seigneur nous réserve plein d'encouragement au milieu des réponses qu'il est sur le point de nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, notre espoir est en toi. Et je te demande, à travers tes réponses aujourd'hui, d'encourager ton peuple, mon Dieu, et de donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas, de te faire connaître à eux. Touche les cœurs, touche nos cœurs par ta merveilleuse parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que l'Église d'Éphèse était une assemblée persévérante et courageuse. Elle avait résisté aux imposteurs qui avaient cherché à s'introduire chez elle et aux faux enseignants, les Nicolaïtes. Toutefois, Jésus doit lui adresser un reproche. Elle avait abandonné son premier amour pour lui. L'arbre de vie. Chers amis, débutons la lecture de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs observaient un rituel de consécration, comme il est écrit dans Lévitique, chapitre 8, verset 24. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite. Dans le Nouveau Testament, Jésus termine quelques-unes de ses paraboles, les plus connues, par la formule « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Car tous ceux qui entendent la parole de Dieu ne la comprennent pas nécessairement. Ils en entendront le son, mais ils n'en comprendront pas le sens. Ils rateront le message derrière la parole. Le Seigneur Jésus utilise cette expression pour réveiller les oreilles insensibles. Dans notre passage, il s'adresse aux gens doués de perception spirituelle. Entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit bien sûr de l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de chaque croyant. Il enseigne ce qu'il a reçu du Père à l'Église. À celui qui vaincra, là encore, les destinataires de ce message sont les authentiques croyants. Ceux-ci peuvent seulement vaincre par la puissance du sang de l'agneau. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie accorde la vie éternelle à ceux qui le consomment. Mais quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'accès à cet arbre ne leur était plus permis. Comme on peut le voir et le lire dans Genèse, chapitre 3, les versets 22 à 24. Or, dans les cieux, l'homme qui a obéi à Dieu en recevant Jésus-Christ obtiendra de nouveau le privilège de manger le fruit de l'arbre de vie. La vie abondante, que nous avons déjà commencé à vivre ici-bas en Jésus-Christ, le sera encore plus lorsque nous serons en présence du Père dans les cieux. Le paradis de Dieu signifie littéralement le jardin de Dieu. Le ciel n'est pas seulement un endroit pavé de rues en or, il est également un grand parc ou un jardin. Nous pouvons conclure l'étude de cette lettre en résumant que l'Église d'Éphèse représente l'Église à son meilleur. Il s'agit de l'Église apostolique. La lettre de Jésus-Christ à l'Église de Smyrne. Smyrne est l'Église du martyr. Elle a souffert le martyr à cause de son témoignage pour Jésus-Christ. Le mot Smyrne signifie « myrrhe » ou « amertume ». Elle porte donc l'idée de souffrance. La cité de Smyrne existe encore aujourd'hui, mais son nom a changé. Elle porte aujourd'hui le nom turc d'Izmir. Cette ville a été continuellement habitée depuis sa fondation. C'est une agglomération prospère vouée au commerce. Certains disent même qu'elle sera bientôt plus grande qu'Istanbul. C'est effectivement une ville très peuplée et en pleine expansion commerciale. Aujourd'hui, la cité moderne couvre une large portion des ruines de l'ancienne Smyrne. Il faut donc être attentif pour ne pas manquer la beauté qui caractérisait la ville d'antan. Le port qui s'ouvre sur la mer Égée est très pittoresque. Smyrne a déjà été une des plus belles villes de la région. On l'appelait une fleur, un ornement ou même la couronne de l'Asie. On y trouve une acropole, c'est-à-dire un endroit fortifié, à flanc de montagne ou sur un sommet. Elle était appelée une couronne car l'acropole était encerclée de fleurs, d'une haie et de myrtes. Elle aussi a été fondée environ 2000 ans avant Jésus-Christ par les Hittites. Plus tard, Alexandre le Grand a contribué à faire d'elle la belle ville qu'elle était au premier temps de l'Église chrétienne. On y trouvait plusieurs nobles bâtiments et de très beaux temples. Un temple pour Zeus, un temple pour Cybèle, un temple pour Aphrodite, un temple pour Apollon et un temple pour Asclépios. Smyrne possédait aussi un théâtre et un odéon, c'est-à-dire un centre musical. On y trouvait aussi un stade, et c'est à cet endroit que Polycarpe, évêque de Smyrne et disciple de l'apôtre Jean, a été martyrisé. Il a été brûlé vif sur le bûcher en 155. Dans la littérature chrétienne, Smyrne est synonyme de souffrance. Le Seigneur Jésus, dans sa lettre adressée à cette église, a dit qu'il connaissait sa souffrance et sa pauvreté. On remarque qu'aucun reproche n'est adressé à cette église. Elle est la seule à jouir de cet honneur avec l'église de Philadelphie. Assez curieusement, ce sont les deux seules églises qui existent encore. Leur chandelier a été ébranlé, mais il n'a jamais été éteint. On trouve encore quelques chrétiens à Izmir, mais ils vivent cachés, car les chrétiens sont encore persécutés aujourd'hui par le gouvernement turc. Nous avons déjà vu que l'église d'Éphèse représentait l'église apostolique des débuts du christianisme. Smyrne représente l'église martyre qui couvre une période partant d'environ 100 après Jésus-Christ jusqu'à environ 314. Cette période s'étend de la mort de l'apôtre Jean jusqu'à l'édit de tolérance de l'empereur Constantin. Cette loi impériale mettait fin aux persécutions contre les chrétiens, non seulement à Smyrne, mais dans l'ensemble de l'Empire romain. Ici, le Seigneur Jésus adresse à l'église de Smyrne le plus bref de ses 7 messages. Et il n'a que des félicitations et des louanges à leur adresser. Un encouragement au milieu de la persécution. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ce passage se réfère au chapitre 1, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Seigneur a choisi cette portion de la vision donnée à l'apôtre Jean parce qu'elle convenait particulièrement bien à l'église de Smyrne. Il s'adresse à elle comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier signifie qu'avant lui, il n'y avait rien et qu'après lui, rien ne lui succédera. Il exerce un contrôle absolu sur toute personne et toute chose. les croyants persécutés avaient besoin de se faire rappeler que Dieu est souverain et que la persécution dont l'Église était l'objet faisait partie de l'objectif et du plan de Dieu. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ce message s'adresse tout particulièrement aux martyrs de la foi. Selon le livre des martyrs de Fox, 5 millions de croyants ont été mis à mort pour Jésus-Christ pendant cette période. Avec son expérience personnelle de la mort, leur sauveur pouvait vraiment s'identifier à leur souffrance. Bien plus, Jésus-Christ avait non seulement été soumis à la peine, la souffrance et à la mort du supplicité, mais il avait triomphé de cette mort. Des centaines de personnes pouvaient témoigner de cette victoire car ils l'avaient vue après sa résurrection, et l'apôtre Jean faisait partie de ce groupe. Jésus avait non seulement triomphé de la mort, mais il pouvait également sauver les victimes de persécution à cause de son nom. Et il ajoute ceci, cette parole de félicitation. Apocalypse chapitre 2, les versets 9 et 10. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Tout comme l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne reçoit 7 paroles de félicitations. Premièrement, Jésus reconnaît son affliction. Bien sûr, cette affliction ne se compare pas à la grande tribulation à venir. Nous n'en sommes pas encore là. Les chrétiens de cette époque pouvaient être brûlés vifs ou dévorés par les lions dans les arènes. Et si l'affreuse persécution par les empereurs romains ne peut pas être appelée la grande tribulation, nos petites douleurs présentes le peuvent encore bien moins. L'Église de Smyrne a toutefois beaucoup souffert, et ils ont enduré ces souffrances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus reconnaît leur pauvreté. Il s'agit de l'absence de possessions matérielles. Les chrétiens des premiers siècles appartenaient souvent aux classes les plus défavorisées. Lorsqu'une personne riche se convertissait au christianisme, ses biens étaient confisqués à cause de sa foi. Bien que tu sois riche, montre par contre la richesse spirituelle de cette église. Ils étaient bénis de toute richesse spirituelle. On remarque en passant le contraste avec l'église de Laodicée. Cette dernière se flattait de ses richesses matérielles, mais en réalité, elle souffrait d'une affligeante pauvreté et infirmité spirituelle, sans même en prendre conscience. Aujourd'hui, plusieurs églises sont fières de compter un millionnaire ou un personnage bien connu dans leur rang. Mais l'église de Smyrne ne pouvait pas se vanter d'une telle chose. Leur assemblée comptait des esclaves, des anciens esclaves, des esclaves en fuite, des esclaves libérés, des gens pauvres et d'autres qui avaient perdu tout ce qu'ils possédaient à cause de leur foi en Jésus-Christ. Troisièmement, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 6, l'apôtre Paul affirme que « tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ». Ce n'est pas la nationalité qui confirme un véritable Israélite, mais sa religion. L'application de cette religion dans sa vie faisait de l'authentique juif un homme d'une remarquable droiture morale. C'est pourquoi Jésus décrit Nathanaël de la manière suivante. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 47. « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Quel contraste avec les Juifs de Smyrne qui faisaient en réalité partie d'une synagogue de Satan. Lorsqu'un Juif renie sa croyance dans l'Ancien Testament, peut-on dire qu'il est encore un Juif? Même s'il prétend être encore un Juif, il ne l'est plus devant Dieu. Toutefois, même dans les temps les plus sombres de l'histoire d'Israël, l'Éternel Dieu préservait quand même une partie de son peuple. Comme il est écrit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18. « Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Quatrièmement, ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Le Seigneur encourage son peuple au milieu des persécutions. Pour la deuxième fois dans ce livre, il offre son support à son peuple. L'histoire de l'Église nous apprend que des foules sont allées de plein gré à leur mort en chantant des louanges à Dieu. Cinquièmement, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Les actions maléfiques de Satan seront décrites plus loin dans l'Apocalypse. Ici, Jésus-Christ l'identifie comme le responsable des souffrances des croyants de l'Église de Smyrne. Nous avons souvent tendance à blâmer la personne ou la circonstance directement responsable de nos tracas. Mais très souvent, ce ne sont là que des instruments inconscients entre les mains de Satan. Le Seigneur Jésus, lui, identifie clairement la racine du problème. Pendant une bonne partie de sa vie, J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, pouvait identifier les chagrins et souffrances qui arrivaient dans sa vie comme étant le jugement et le châtiment de Dieu. Mais, quand il a commencé à souffrir de nombreux maux physiques, il a commencé à se questionner. Beaucoup de gens se sont mis à lui écrire en lui disant « Je crois que Satan est responsable des choses qui vous arrivent ». McGee a alors décidé que cela devait être l'explication des nombreux problèmes de santé physique qui l'affligeaient à ce moment. Sixièmement, vous aurez une tribulation de 10 jours. Pendant cette période, l'Église a subi les persécutions intenses des 10 empereurs romains qui suivront. Les dates sont approximatives. Néron, de 64 à 68 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul a été décapité sous son règne. Domitien, en 95 et 96. L'apôtre Jean a été exilé sous son règne. Trajan, de 104 à 117. Ignace est mort sur le bûcher sous son règne. Marc Aurèle, de 161 à 180, Polycarpe a aussi subi le martyre sous son règne. Septime Sévère, de 200 à 211, Maximinus, de 235 à 237, Décius, de 250 à 253, Valérien, de 257 à 260, Aurélien, de l'an 270 à 275, et Dioclétien, de 303 à 313, le pire de tous. La couronne de vie. Septièmement, sois fidèle jusqu'à la mort, précise Jésus. Les croyants de Smyrne ont effectivement été fidèles jusqu'à la mort. Ils ont accepté le martyre au nom de Jésus-Christ. En retour, il leur promet la couronne de vie. Rappelons-nous qu'il s'adresse aux chrétiens de la ville de Smyrne, elle-même comparée à une couronne, comme nous l'avons vu. Mais il ne leur donnera pas une couronne de laurier ou de fleurs ou d'une autre matière périssable. Il leur donnera une éternelle couronne de vie. Le Seigneur réserve des couronnes spéciales pour ceux qui souffrent en son nom. Je ne parle pas seulement des victimes des persécutions. Je connais plusieurs merveilleuses personnes qui obtiendront un jour cette couronne. Si vous êtes croyant et que vous souffrez en ce moment, en vous demandant si Dieu se soucie de vous, sachez qu'il vous réserve une couronne éternelle. Vous serez parmi les seuls à obtenir cette couronne, vous et ceux qui souffrent dans les mêmes conditions. Cette promesse se répète dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Cette couronne de vie vous appartiendra un jour. Quel encouragement pour les chrétiens invalides ou ceux qui souffrent aujourd'hui sur un lit de douleur ou d'agonie. Revenons au texte. Lisons Apocalypse, chapitre 2, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous êtes croyant, avez-vous entendu l'Esprit de Dieu qui habite en vous aujourd'hui? Vous parle-t-il? Pouvez-vous entendre sa voix? La seconde mort est bien définie par Dwight L. Moody. Celui qui est né une fois mourra deux fois. Celui qui est né deux fois mourra une fois. La première naissance et la première mort sont physiques. La deuxième naissance et la deuxième mort sont spirituelles. Si une personne meurt sans être née de nouveau, c'est-à-dire spirituellement, après être morte physiquement, elle mourra aussi spirituellement. Elle sera éternellement séparée de Dieu. Mais si une personne naît de nouveau avant de mourir physiquement, la mort spirituelle ne pourra jamais l'atteindre. aucun croyant n'expérimentera cette deuxième mort. Et si le Seigneur revient bientôt, le chrétien n'expérimentera même pas la première mort. La lettre de Jésus-Christ à l'Église de Pergame. L'Église de Pergame représente l'histoire de l'Église à partir d'environ 314 jusqu'en 510. Après 3 siècles de persécution, l'empereur Constantin proclame le christianisme religion d'État. Cela peut paraître une bonne nouvelle pour les chrétiens, mais en réalité, c'est tout le contraire. Prenons un exemple. S'il faut devenir chrétien pour exercer un emploi dans la fonction publique, vous pouvez être certain que de nombreuses personnes ont demandé le baptême davantage par ambition personnelle que poussée par le Saint-Esprit. En conséquence, le monde est entré dans l'Église. Celle-ci a alors commencé à s'éloigner de la personne de Jésus-Christ. Encore une fois, cette lettre a d'abord été envoyée à une église locale, mais elle prend également sa place dans l'histoire de l'ensemble de l'Église. Tout d'abord, considérons le site de la ville de Pergame. Présentement, Izmir, anciennement Smyrne, est le rendez-vous des touristes à cause de l'aéroport et de l'abondance d'hôtels. À partir de là, vous pouvez soit prendre la route du sud et arriver à Éphèse au bout d'environ 100 km, soit prendre la route du nord pendant environ 110 km pour atteindre Pergame. Ces trois villes, les trois premières mentionnées dans les lettres aux 7 églises, étaient des cités royales. Elles se livraient une vive compétition. Smyrne était la capitale commerciale, Éphèse était la capitale politique et Pergame était la capitale religieuse de la région. L'acropole de Pergame est encore debout et on peut encore y voir les grands temples. Cette cité de Mysie a été appelée par Pline, de loin la plus illustre d'Asie. L'endroit est encore un des plus jolis d'Asie mineure. Sir William Ramsay disait qu'elle méritait plus que tout autre le nom de ville royale. On y trouve un temple construit par César Auguste. C'est lui qui l'a transformé en ville royale. Il venait y séjourner quand le climat se refroidissait à Rome pendant l'hiver. Elle abritait également une station thermale. Ce n'était pas une ville de commerce comme Smyrne, puisqu'elle n'est dotée d'aucun port de mer et qu'elle n'est pas située dans l'axe des grandes routes commerciales venant de l'Orient. Mais c'était une ville fortifiée, capable de se défendre contre l'envahisseur ennemi. Elle était bâtie sur une montagne et l'acropole dominait toute la plaine environnante. Le site original de la ville était situé entre deux rivières. En plus de ses grands temples, Pergame était fière de sa bibliothèque, une des plus grandes du monde antique. On y trouvait plus de 200 000 volumes. En fait, le nom de la ville vient du parchemin appelé Pergamena, qui servait à rédiger les livres. Plus tard, cette grande bibliothèque a été offerte par Marc-Antoine à Cléopâtre. Elle l'a ensuite déménagée à Alexandrie, et cette dernière bibliothèque était renommée dans tout le monde connu. Mais en fait, une grande partie des livres de la bibliothèque d'Alexandrie venaient de Pergame. Aujourd'hui encore, on trouve dans la cathédrale Sainte-Sophie, à Istanbul, un vase d'albâtre aussi grand qu'un homme. Il a été pris dans la ville de Pergame. Bien sûr, la cité de Pergame a été elle-même pillée et détruite. Voilà l'histoire de ces villes. Quelle est ton histoire, mon ami? Est-ce que Dieu en fait partie? Est-ce que Jésus-Christ est devenu le Sauveur et le Seigneur de ton existence? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Les versets 12 à 15. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Oh, merci Régent. Mes amis, et spécialement vous qui êtes des croyants, quel encouragement on a reçu aujourd'hui à travers le beau message que Dieu nous a donné par la bouche de Régent. Et j'ai été particulièrement fortifié dans mon âme quand il nous a cité les paroles de Dwight L. Moody. Permettez-moi de vous répéter cette citation, ça en vaut réellement la peine. Voici ce qu'il a dit. La première naissance et la première mort sont physiques. La deuxième naissance et la deuxième mort sont spirituelles. Si une personne meurt sans être née de nouveau, c'est-à-dire spirituellement, après être morte physiquement, elle mourra spirituellement. Elle sera éternellement séparée de Dieu. Mais si une personne naît de nouveau avant de mourir physiquement, la mort spirituelle ne pourra jamais l'atteindre. Aucun croyant n'expérimentera cette deuxième mort. Et si le Seigneur revient bientôt, le chrétien n'expérimentera même pas la première mort. C'est pas fantastique, ça? Mais toi, mon ami, toi qui n'as pas expérimenté la seconde naissance, toi qui n'es pas encore né de nouveau, il est possible que tu n'aies pas réellement compris ce que c'est de naître de nouveau. Alors, permets-moi de te l'expliquer. Et ma prière à Dieu, c'est qu'il ouvre ton cœur au beau message d'amour qu'il a pour toi aujourd'hui. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12 et 13, le Seigneur nous dit ceci. « À tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, mon ami, ça veut dire que si tu reçois Jésus comme sauveur personnel, si tu crois en son nom, tu as le pouvoir aujourd'hui même de devenir un enfant de Dieu. Tu ne naîtras pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, parce que cette naissance-là, tu l'as obtenue de tes parents quand ils t'ont mis au monde. Mais cette fois-ci, tu vas naître de la volonté de Dieu. Alors, je t'invite à lire avec moi dans le troisième chapitre de l'Évangile de Jean, des versets 3 à 6. Tu peux voir que lorsque Jésus a rencontré Nicodème, il lui a dit ceci. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui a dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors, mon ami, si tu veux naître de l'esprit, tu dois te pencher sur ce que Jésus a dit et tu dois prendre ses paroles pour toi, personnellement. Et je te laisse sur ce verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il continue au verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, mon ami, place ta confiance en Jésus seul. Il veut que tu naisses de nouveau. Il veut te donner cette vie éternelle, cette vie extraordinaire dans sa présence. Alors, demande à Jésus de te sauver aujourd'hui et tu vas recevoir ce cadeau de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.